France Culture.
Maître Chalinier, programme de votre journée ?
Programme de ma journée, c'est redressement judiciaire civil pour une école de formation à la boulangerie, à la pâtisserie.
Expliquez-nous, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que c'est un statut associatif, donc ça ne ressort pas du tribunal de commerce. Et l'association est en cessation de paiement, donc on fait la même procédure collective que devant un tribunal de commerce pour un redressement judiciaire. On essaye d'étaler les dettes et prouver qu'on est capable d'apurer le passif sur un certain délai.
Et demain ?
Demain, permanence garde à vue. Vendredi aussi, donc c'est complètement aléatoire.
Bonne journée.
Merci.
Jour ordinaire au tribunal d'Aurillac. Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre. Quatrième épisode, inceste à la cour criminelle.
Alors moi je m'appelle Corinne Sermadiras, je suis avocat à Aurillac dans le Cantal.
Et votre cabinet est diamétralement opposé au tribunal.
Ouais, c'est une question d'opportunité.
Pourquoi le Cantal ?
La qualité de vie déjà, à peu près. Alors bien que maintenant ça ait tendance à baisser largement, il suffit de faire le tour un peu du square, hein, on voit bien un peu qu'il y a aussi des points de deal, que la violence aussi s'intensifie, même dans nos petites villes. Mais bon, je vais partir à mon âge. Hein.
Donc 25 ans de barreau, quasiment.
Ouais, à peu près, ouais.
Beaucoup de pénal.
Du pénal, des liquidations judiciaires, des procédures collectives, du divorce, la vie des gens en fait.
La vie professionnelle dans le tribunal, avec les gens du tribunal, ça se passe comment ?
Alors on est un petit tribunal, hein, on se connaît tous. De façon générale, on a de bonnes relations avec les magistrats, sauf cas particulier bien sûr. Mais de façon générale, on a de bonnes relations. Notamment actuellement avec le procureur de la République qui s'en va, c'est pour ça que j'en parle, avec qui on avait noué des rapports entre le barreau et lui, des rapports d'une courtoisie extrême. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, que l'on peut interpeller entre guillemets facilement, avec qui on peut discuter. Mais petite juridiction veut dire aussi beaucoup de difficultés en moyens. C'est comme ça que tous les dossiers criminels de moins de 20 ans, donc passibles de cours criminels, partent à l'instruction à Clermont-Ferrand. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de magistrats. Et la crainte, et on en avait parlé avec le président Juillard, hein, parce que je l'avais interpellé sur ce point, la crainte, c'est qu'il y ait eu des magistrats qui aient fait des actes dans les dossiers de procédure à l'instruction et qui donc ne peuvent pas siéger à la cour criminelle. Donc nous, les dossiers partent à Clermont-Ferrand, au pôle instruction, qui n'est pas rapide du tout, hein, parce que eux aussi sont surchargés. C'est compliqué. Et partir à Clermont-Ferrand, à l'instruction, à l'aide juridictionnelle, par exemple, quand on est à l'aide juridictionnelle, c'est pas envisageable. Économiquement, c'est pas possible.
Clermont, ici, c'est quoi la distance ?
Alors, on parle pas en distance ici, on parle en temps. Il faut au minimum 2h15. Ensuite, il faut se garer. Bon, bref, si une audition chez le juge d'instruction à Clermont, c'est quasiment la journée de perdu, quoi. Enfin, pas perdu dans le dossier, mais perdu pour autre chose.
Vous nous rappelez le montant de l'aide juridictionnelle ?
Alors, de mémoire, je pense que l'aide juridictionnelle sur un dossier criminel, c'est 1800 euros. TTC. J'entends, je dis bien TTC parce qu'il faut enlever 20%. Voilà. Donc, entre les déplacements, ça dure au minimum 1 an et demi, 2 ans. D'accord ? Il y a toutes les auditions. Il faut aller à la maison d'arrêt pour voir les clients. Ça demande du boulot. Donc, non, c'est pas envisageable.
Vous, ce que vous aimez faire dans la pratique de votre métier ?
Alors, premièrement, ça va paraître bateau, mais moi, j'aime aider les gens. C'est la première des choses. Moi, j'aime le pénal, effectivement. Même si parfois j'ai tendance à essayer de les cadrer et de leur dire, ben là, non, là, c'est du n'importe quoi, ou voilà. Ouais, moi, j'aime aider les gens, en fait. Dans ma pratique, ouais, c'est ça. J'écoute beaucoup. Les premiers rendez-vous sont toujours très, très longs. Je vais très loin dans mes questions. J'essaie de fouiller un peu et de voir le pourquoi du comment. Mais actuellement, par exemple, la maison d'arrêt, elle est full. Ça rentre, ça sort pas. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui dorment par terre. Mais ici, de façon générale, ils essaient quand même Il y a beaucoup de magistrats qui essaient quand même de faire une justice humaine.
Je lisais dans la rentrée 2023, la rentrée judiciaire dans la presse, que vous parliez du Cantal comme d'un désert judiciaire. Est-ce que vous confirmez vos propos? Est-ce que vous pourriez nous parler de combien de juges vous avez ici? Combien de juges il y a dans le Cantal?
Alors, un désert judiciaire, c'est un mot à un moment donné, hein, qui est repris par des journalistes. Je ne sais même pas si je l'ai prononcé, mais...
Philippe Juillard, président du tribunal.
C'est une réalité... que nous manquons toujours de moyens. Il y a eu des efforts considérables. Moi, je suis un ancien magistrat, donc je sais voir la différence qu'il y a eu avant et après. Et il faut dire que depuis 2015 environ, c'est pas d'aujourd'hui, on a remis des moyens. Et il faudra longtemps pour arriver à être à la hauteur de l'Allemagne. On sait très bien, ou à la hauteur de l'Espagne, ou à la hauteur de l'Italie, en nombre de magistrats. C'est archi-documenté. Tous les jours, on sait très bien qu'il nous manque des magistrats, parce qu'on le voit, on le sent. On sait très bien qu'il y a des collègues qui voudraient faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. C'est-à-dire qu'on essaie de faire au mieux, mais avec les moyens qu'on nous donne. Mais ces moyens, on n'en a pas la disposition, on n'en a pas le choix, et d'autant plus pour les magistrats. Donc ici, si on devait avoir un système à l'allemande, on devrait être entre 14 et 16, voire 20 magistrats. Or, on est 9. Mais il faut aussi avoir l'honnêteté de dire qu'effectivement, il y a eu un effort qui a été fait, et un effort considérable, et qui va nous permettre d'avoir, d'ici 2027, un magistrat du siège en plus, et un magistrat du parquet en plus, et deux greffiers.
Philippe Juillard, je lisais aussi dans le même compte-rendu que dans les procédures civiles, vous aviez gagné du temps dans le traitement de ces affaires. Vous étiez passé de 9 mois à 6 mois et demi. Comment vous faites avec le manque de moyens pour gagner du temps?
Eh bien, c'est que j'ai des collègues qui sont formidables. Tout simplement.
Pourquoi je suis revenu ici? Pourquoi je suis revenu ici? Regardez la vue que j'ai de mon bureau. Eh ben, c'est une petite ville, bon, qui peut avoir maintenant quelques infractions assez graves, hein, par rapport à ce qu'on connaissait il y a 25 ans. Mais vous avez une colline avec des arbustes, des bêtes. Voilà, c'est assez paisible quand même. Quand on est comme moi, qu'on veut suppléer la carence de l'institution judiciaire, quand vous êtes sur une très grosse juridiction comme Fort-de-France, Béthune ou Caen, ben vous pouvez pas en fait, et vous vous mettez en danger. L'avantage ici, c'est que d'abord j'ai un président qui me freine, et surtout c'est que même si je dois donner un coup d'accélérateur pendant une ou deux semaines, après je sais que je serai plus au calme après. Et donc ça, c'est quand même assez confortable. Où vous dites, bon, bah, là, je vais récupérer deux cabinets tutelles, ce gros dossier, il faut que je l'examine. Ça me prendra 3 ou 4 heures, mais quand ça sera fait, ça sera fait. Je n'aurai pas encore 30 autres affaires qui me nécessiteront encore 3 heures de travail sur chaque dossier. Et ça, c'est appréciable de savoir que les coups de collier qu'on donne ne sont que passagers.
Mais votre président dit que le Cantal est un désert judiciaire.
Oui, alors, il manque des magistrats. Si on voulait travailler dans l'idéal, mais dans toute la France, il manque des magistrats. En fait, on essaie de gagner du temps sur tout. C'est pas qu'on est stressé, mais on loupe nécessairement des choses. On loupe des choses et on va pas nécessairement en profondeur sur les dossiers. Et c'est ça qui est regrettable. Et c'est là où on crée des incidents. Mais bon, au pénal, c'est bien plus grave que ce qu'on peut faire au civil.
Kitri Lasserre, pourquoi juge?
On parlait d'atavisme dans ma famille. En fait, mon grand-père paternel était procureur à Rabat. Donc, j'ai toujours entendu parler de la justice. Et donc, j'ai passé le concours. Ça m'a plu et donc je suis restée juge. Mais j'aurais jamais pu être au parquet. C'est bizarre. C'est une fonction que je trouve très difficile de rebondir sur les événements de l'audience. Le rôle de juge est assez canalisé en fait. S'il y a un incident, on peut toujours suspendre, dire vous allez chercher votre bâtonnier pour régler votre problème. On reviendra quand vous serez prêt. Je dis toujours le juge est le maître du temps. Alors. Le justiciable a l'impression qu'on prend trop de temps, mais quand on voit, par exemple, l'audience que j'ai passée au pôle social où les parties n'ont pas conclu, Qu'est-ce que je fais? Je radie le dossier. Certes, on va avoir un nouveau numéro quand ils demanderont la réinscription, mais je suis pas. J'ai parfois l'impression de, entre guillemets, gérer les cabinets d'avocats qui n'ont pas le temps de rédiger. Et en fait, c'est parce qu'on leur a dit, ça va être retenu ou radié, qu'ils concluent au dernier moment. Et donc, je peux prendre le dossier en délibéré. Et c'est ça, c'est assez désagréable. Il y a des avocats qui fonctionnent très bien et d'autres où c'est plus compliqué.
Maître Juillard, comment vit le tribunal d'Aurillac de votre point de vue d'avocat ?
Ben, je dirais que le tribunal d'Aurillac, c'est un petit tribunal, donc on a forcément des bonnes relations entre avocats et magistrats, parce qu'on se côtoie beaucoup et il y a un immense respect. Je pense que ça se passe globalement bien sur le tribunal d'Aurillac. Par contre, au niveau pénal, il y a une augmentation de la criminalité. On a des poursuites beaucoup plus conséquentes, donc on a aussi, qui dit plus de poursuites, dit des avocats qui sont un peu plus pressurisés, auxquels on me demande d'être très présents. Donc ça crée parfois, à l'heure actuelle, je trouve, des crispations, peut-être parce qu'on n'est pas assez nombreux sur le barreau. Sinon, globalement, voilà, tout se passe bien. Moi, j'aime beaucoup mon métier, donc je l'exerce toujours avec plaisir.
Vous êtes originaire d'où ?
Alors moi, je suis originaire du département, je suis un pur Cantalou, comme on dit. À l'origine, j'avais prévu d'aller exercer sur la région toulousaine pour suivre ma femme qui faisait des études de psychologie. Moi, j'ai quand même fait des CV, j'ai envoyé des CV à Aurillac, on va pas dire par précaution, mais parce qu'il y avait toujours l'attachement au département. Et la première personne qui m'a répondu, c'est mon associé actuel. Donc on est revenu avec ma femme, puisqu'on est tous les deux originaires du Cantal, et on est très contents d'être venus ici.
Sillonner les routes du Cantal, mais pour aller rencontrer des victimes, ça vous fait quoi, vous qui êtes natif d'ici ?
Alors je fais beaucoup effectivement de parties civiles. Après, je me rends compte qu'on est dans un département où il y a beaucoup de bienveillance. Pour moi, vraiment, c'est un plaisir d'accompagner ces gens qui sont souvent en souffrance, et j'essaie de faire mon maximum pour les aider au mieux.
J'aime les gens et je pense que ces fonctions-là nécessitent un minimum d'entrée en communication avec eux. Si j'en avais assez, au bout de 25 ans, on peut se dire que quand même on commence parfois à être fatigué. Et donc on me demande de changer de fonction. On va en procédure écrite, on fait que des successions, on fait que du droit des biens, on se déplace plus, on fait de la copropriété, annuler les assemblées générales, ça on peut faire. Il y a des juridictions qui font que ça, hein, en région parisienne, Nanterre, il y a des chambres qui font que de la copropriété toute la journée. Ils peuvent pas rencontrer les personnes.
Qu'est-ce qui la sert? Est-ce que votre plaisir, c'est d'être sur les routes?
J'ai beaucoup bougé. J'ai beaucoup bougé dans ma vie professionnelle. Et j'ai beaucoup bougé dans ce poste-là. Oui, parce que le tribunal paritaire a toujours nécessite le transport. Mais à Mauriac, en début de carrière, je faisais aussi des transports. Et il y a des avocats qui me connaissent depuis 25 ans ici qui pouvaient vous dire que je l'ai toujours fait et qu'on trouve toujours des solutions, enfin, totales ou partielles, dans le transport.
Est-ce que vous avez le temps de profiter du paysage ?
Ah bah oui, tous les matins et tous les soirs, quand il fait pas nuit, quand je rentre chez moi, à Figeac. C'est pour ça aussi qu'il me faut une journée de repos par semaine, parce que ça fait un peu de route quand même.
Est-ce que vous avez bâti votre carrière, votre vie professionnelle comme une carrière, avec une pensée sur l'avancement, prendre des grades, être vice-présidente ou pas ? Est-ce que voilà, vous avez eu cette pensée-là au début, au milieu ?
Oui, jusqu'à ce que je revienne à Aurillac. Je l'ai fait. J'étais la première femme présidente de ma promo. J'aurais pu continuer. Et aujourd'hui, je ne souhaite pas continuer dans cette voie.
Ça veut dire quoi ? Vous êtes très bien là et c'est...
Voilà, je suis très bien là, je suis ma maison à Figeac. Je ne resterai pas jusqu'à la fin de ma carrière. Je ne désespère pas un jour de venir en hiérarchie pour une question de retraite, hein, puisque notre salaire est quand même largement composé de primes, et donc la chute pourrait être assez rude à la retraite. Mais bon, après, si le ministère ne souhaite pas me nommer comme président de chambre, je suis très bien là. Parce que j'ai restreint beaucoup mes choix, pour le coup. Mais j'ai beaucoup donné pour la magistrature. Pour les gens. Et là, vous voyez, il faut que je parte à Vic-sur-Serre pour aller entendre ma petite personne âgée à la maison de retraite avec mon greffier. Alors, voilà Monsieur Amélaïs qui est à son bureau, qui je vous laisse avec lui.
Comment allez-vous, Monsieur le greffier ?
Ça va, fatigué par rapport à l'audition de hier, qui était très très mouvementée, mais ça va.
Là, on est dans votre bureau.
Oui.
Vous pourriez décrire un peu tout ce qu'il y a sur la cheminée, par exemple.
Vous avez les plus gros dossiers qui sont trop volumineux pour qu'on puisse les mettre en pochette suspendue.
Mais ça veut dire que la justice, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de papier ?
Énormément de papier. On essaie de réduire quand c'est possible, mais c'est pas toujours le cas. D'ailleurs, vous avez qu'à voir sur les deux cabinets pour lesquels on a à peu près 3000 mesures, on reçoit énormément de courriers chaque jour, tous les jours. Et il faut les traiter, que ce soit les courriers papier et les courriers qu'on reçoit en dématérialisé par mail.
Dans votre perspective d'avenir, comment vous voyez évoluer dans la justice ?
Moi, je pense passer le concours de magistrature. Alors, ça sera en 2026, donc pas l'an prochain, puisque je le passerai en interne, sachant que j'aurai 4 ans d'expérience professionnelle dans le domaine judiciaire. Donc, ce qui fait que ça, plus mes diplômes, puisque je suis diplômé en Master 2, donc droit privé, mais bon, c'est juste pour vous indiquer qu'il faut les diplômes et l'expérience professionnelle pour avoir accès au concours interne, ce qui fait que je le tenterai et puis j'espère y arriver.
Qu'est-ce qui vous attire comme rôle dans la magistrature ? Un poste généraliste comme ici à Aurillac ou spécialisé comme dans les grandes juridictions ?
Alors, moi, étant donné que je suis greffier placé, vous le voyez, je maîtrise un petit peu tous les domaines et j'ai plutôt intérêt à les maîtriser ou à me former pour ceux que je ne maîtrise pas. Donc, dans la mesure où je serai nommé magistrat de mon côté, ça serait plus du domaine généraliste. Après, moi, je suis plus attiré par le pénal, même si je suis aux tutelles aujourd'hui. Voilà, ce qui fait que si je suis affecté au niveau correctionnel ou même si je suis nommé procureur, moi, ça serait des postes qui me plairaient.
Comment on appelle ça une procédure au tribunal de commerce ? On porte plainte ?
Non, on porte pas plainte. Non, c'est pas du pénal. C'est l'équivalent du civil, du droit civil, mais appliqué au droit commercial, d'accord, au droit des affaires.
Okay. Et le président du tribunal de commerce,
oui,
il est totalement autonome du président du tribunal.
Complètement.
Bon, vous nous introduisez, maître ?
Peut-être. J'espère qu'il est là.
Maître ? Alors, je suis pas seul. Monsieur le Président.
Bonjour. Derrière vous, vous avez donc la responsable du greffe, qui est donc la greffière Maître Béchonnet. Vous avez derrière vous également un juge consulaire qui vient de faire la mise en état. Donc la mise en état, c'est l'appel de tous les dossiers qui devront être évoqués en contentieux ultérieurement. Donc ça, c'est une audience qui intervient tous les mois. Et qui dure à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, où on décide en fait du placement de ces affaires, donc à des audiences où seront traités les dossiers en matière contentieuse. Dans la pièce à côté, vous avez en fait des juges consulaires qui sont en train de se réunir pour évoquer les dossiers qui vont être évoqués à l'audience de procédure collective de cet après-midi. Voilà, en fait, on va dire deux types d'audiences, des audiences contentieuses qui sont ouvertes au public qui sont libres d'accès et les procédures collectives qui correspondent à toutes les difficultés rencontrées par les entreprises. Donc là, le but, c'est d'essayer de trouver une sortie de crise pour ces entreprises. Donc là, on va parler en fait de mise en place de plans de redressement où on va prendre les dettes, on va les étaler sur une période maximale qui peut aller jusqu'à 10 ans. Et malheureusement, quand rien n'est possible, on aboutit à la liquidation et donc on revient en fait sur cette notion de faillite. Donc les audiences de procédure collective, elles, par contre, s'effectuent à huis clos. C'est-à-dire qu'on a uniquement le chef d'entreprise, une composition de 3 juges, le greffier et éventuellement les avocats et le procureur quand on est sur des ouvertures de procédure collective.
Donc votre rôle vous donne un point de vue sur la vie économique du Cantal?
C'est plus qu'un point de vue, ouais. C'est un baromètre, un thermomètre, enfin tous les instruments de mesure effectivement qui permettent de vérifier l'état de santé un petit peu des entreprises et également en fait du tissu économique global à l'échelle du Cantal, ouais. Qui est vrai d'ailleurs pour tous les tribunaux de commerce.
Donc comment va le Cantal alors ?
Le Cantal ne va pas plus mal que les autres départements français, c'est-à-dire qu'on a observé les mêmes symptômes pendant la période Covid, après la période Covid, et aujourd'hui on observe une petite stabilité dans les difficultés des entreprises, mais à la rentrée on a observé un emballement en fait des difficultés des entreprises qui étaient essentiellement liées à la mise en place en fait du remboursement des PGE. PGE, c'est les prêts garantis d'État donc qui étaient accordés aux entreprises en sortie de crise Covid. Donc il y a eu une période on va dire de trêve et lorsque les PGE ont dû commencer à être remboursés. Les sociétés qui n'allaient déjà pas très bien préalablement se sont retrouvées en fait pris à la gorge, et ce qui explique qu'on a eu une augmentation assez importante des sociétés qui demandaient une liquidation judiciaire directe. Par contre, sur un plan, on va dire, de santé générale, ce qui est assez marquant, c'est de constater qu'on a beaucoup de gens qui sont impactés moralement et qui n'ont plus envie de se battre. Ça, par contre, c'est quelque chose d'assez nouveau. On n'avait pas l'habitude de voir. On a des gens relativement jeunes qui jettent l'éponge. Là où, parfois, on pourrait imaginer une possibilité de redressement. Ça, c'est quand même quelque chose de plus inquiétant. Et c'est ce qui nous amène, en fait, à solliciter bien souvent donc une structure qui s'appelle APESA, qui est une structure, en fait, qui est dédiée aux chefs d'entreprise qui rencontrent des difficultés psychologiques.
Vous êtes président du tribunal de commerce depuis quand ?
Depuis, ça doit faire 6 ou 7 ans, à peu près. Je terminerai mon mandat en 2025.
Maître Méral, comment va votre client ?
Écoutez, ça va. C'est un peu compliqué, la maison d'arrêt, parce que quelqu'un qui a toujours vécu à la campagne, c'est compliqué.
Il a des affaires, parce qu'il est parti quasiment sans rien.
Sa femme lui a apporté ses affaires le lendemain, oui.
Vous avez pu le voir au parloir ?
Oui. Oui, je suis allé le voir.
Et alors, il veut faire appel ?
Le délai expire demain. On verra. Pour l'instant, on n'est pas forcément parti sur un appel, mais c'est lui qui a le choix. Il peut le faire auprès de la maison d'arrêt s'il le veut.
Et là, vous étiez pour quoi ce matin ?
Pour un dossier de mineurs non accompagnés devant le juge des enfants. Voilà. Donc l'aide sociale à l'enfance du Cantal avait refusé de le prendre en charge en sa qualité de mineur non accompagné, reconnaissant pas sa minorité. Et après des investigations, notamment une expertise osseuse que j'aime pas trop, mais qui a été réalisée, l'expert il a bien conclu qu'il était mineur. Donc il est pris en charge à ses 17 ans jusqu'à ses 18 ans par l'aide sociale à l'enfance du Cantal.
Il vient de quel pays ?
Il est de Guinée. Voilà, tous les papiers de Guinée ne sont jamais authentifiés par la police aux frontières. Donc c'est un des autres multiples problèmes qu'on a, y compris dans les juridictions rurales. Puisqu'on est souvent un lieu de desserte. Hein. Quand il y a trop de mineurs non accompagnés, souvent on les met dans les petites villes, donc, notamment sur Aurillac. Et là, pour sa situation à lui, il n'était pas reconnu dans sa minorité, donc il a fallu faire tout un travail. Et heureusement qu'on a des réseaux de bénévoles qui ont pris en charge ce mineur pendant une année. Parce que sinon, ça aurait fait comme dans les grandes villes, on les laisse à livrer à eux-mêmes et on s'étonne après qu'il y ait des infractions qui puissent être commises.
Je suis Philippe Clarissou, j'ai 64 ans. J'ai un parcours professionnel dans la magistrature atypique, puisque j'ai exercé comme avocat indépendant pendant 28 ans, avant de me décider à faire une procédure d'intégration directe, une sorte de validation des acquis, comme on pourrait le traduire éventuellement, améliorée néanmoins vers mes 55 ans, pour essayer de vivre un petit peu autre chose. Donc j'ai intégré la magistrature il y a maintenant 7 ans.
Vous êtes passé un peu rapidement sur ce qui se passe à 55 ans. Vous quittez la robe d'avocat pour prendre celle de juge. Qu'est-ce qui se passe intérieurement? Comment vous mûrissez les choses? Et qu'est-ce qui explique ce basculement?
Alors, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour du métier d'avocat, très sincèrement. Non pas que ça ne m'ait pas intéressé, c'est un métier qui est absolument passionnant. Mais j'arrivais à un stade où j'avais envie depuis un certain temps d'avoir une autre expérience professionnelle. Je l'ai retardé un petit peu à cause, ou grâce, je ne sais pas, à mes enfants, qui poursuivaient tous des études supérieures. Et financièrement, j'ai un peu de mal à envisager de franchir un pas qui est malgré tout coûteux d'un point de vue financier. On a un petit trou d'air au niveau financier quand on franchit ce pas-là. Et j'ai donc attendu d'avoir les 55 ans pour le faire, au moment où mes enfants étaient sortis d'affaires et avaient un peu moins besoin de moi sur le plan financier. L'objectif était donc d'abord de vivre une autre expérience professionnelle. J'avais un petit peu de lassitude du métier d'avocat lié non pas au métier lui-même, mais à tous ses à côté. La gestion financière, la gestion des clients, la gestion du personnel. Tout cela me pesait un petit peu et je voulais au final également avoir une autre vue de la justice en étant du côté de celui où on prend les décisions et non plus seulement du côté où on essaie de les influer. Donc j'ai franchi ce pas avec un grand bonheur et je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas l'avoir fait avant parce que j'y ai trouvé quand même beaucoup de satisfaction, beaucoup d'avantages. Il y a un âge qui me permettrait d'être à la retraite, j'espère aller jusqu'au bout et la limite que me permet, c'est-à-dire 67 ans, puisque maintenant, c'est un métier plaisir pour ce qui me concerne, contrairement peut-être à certains plus jeunes que moi qui ont besoin de développer une carrière. Moi, je sais qu'elle est derrière moi, que je suis au bout de ce que je peux faire, je suis au bout de l'avancement que je peux avoir dans la magistrature au regard de la date à laquelle j'y suis rentré. Donc maintenant, j'essaie de vivre mon métier avec plaisir et je crois que j'y prends beaucoup de plaisir, c'est pourquoi je souhaite y rester le plus longtemps possible.
Juge des enfants au tribunal d'Aurillac, c'est quoi votre quotidien?
Alors le quotidien du juge des enfants, pour ma partie juge des enfants, c'est d'être confronté à des difficultés, à des souffrances de famille, mais au-delà de la famille, d'enfants qui subissent les conséquences des agissements de leurs parents, de leur comportement, de leur état d'esprit, de leur manque, de leurs excès parfois. Donc ce qu'on attend de nous, en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est de prendre en premier lieu en compte les difficultés et les souffrances des enfants pour essayer de trouver une solution, et la loi nous en offre de multiples, pour les atténuer, voire les faire disparaître dans le meilleur des cas. L'objectif d'un juge des enfants étant, lorsqu'il commence un dossier, d'arriver à le terminer, c'est-à-dire d'avoir certainement une évolution suffisante pour que la notion de danger n'existe plus et qu'on ne soit plus utile. Il y a un premier cas de figure, ils sont d'abord victimes de la souffrance sociale de leurs parents. Des parents eux-mêmes en souffrance dans leur enfance, qui répètent et réitèrent sur leurs enfants les mêmes difficultés qu'eux-mêmes ont connues, qui ne s'en rendent souvent pas compte, et des enfants qui manquent dans leur apprentissage et dans le développement de l'attention, parfois des soins, et souvent d'une ouverture sur l'extérieur, les parents estimant très souvent. Et c'est vrai que plus ils sont défaillants et plus ils ont ce sentiment, que le fait que le juge soit saisi leur enlève une parcelle de leur autorité et une parcelle de leur parentalité. Et très souvent, ce type-là de parents sont des parents qui sont opposants aux mesures, c'est-à-dire qui n'y coopèrent pas. Et il faut aller parfois jusqu'au placement des enfants lorsqu'on s'aperçoit que le travail qu'on a tenté est un travail qui est voué à l'échec du fait de l'absence de considération des parents et parfois des enfants aux mesures qui sont proposées. Et à ce moment-là, au regard d'un état de souffrance et de manque de développement des enfants, la seule solution reste la plus mauvaise, mais néanmoins elle existe, c'est celle du placement. Alors placement soit chez un des parents, c'est protéger un enfant contre l'autre parent. On place l'enfant chez un parent. Et à ce moment-là, on est en charge et on a la possibilité de régler les rapports entre cet ou ses enfants et le parent défaillant. C'est une possibilité de placement chez un tiers, qui est la deuxième solution que la loi nous demande de privilégier. La recherche d'un membre de la famille capable et acceptant de prendre en charge les enfants. Et à défaut, la dernière possibilité, c'est le placement en institution, soit auprès de l'aide sociale à l'enfance, soit directement dans des établissements dont le but est d'accueillir des enfants.
Oui, entre Stéphanie. J'ai donné toutes les informations que
vous
m'avez données.
Je m'appelle Stéphanie Val. Je suis juge des enfants au tribunal judiciaire d'Aurillac. Je suis arrivée il y a à peu près un an, en septembre 2023, en sortant de l'école de la magistrature. Et avant ça, j'ai été pendant une vingtaine d'années directrice de service de la protection judiciaire de la jeunesse. Et un tout petit peu prof, quelques années à Mayotte. Voilà.
Et pourquoi donc juge dans votre parcours ?
Je m'y trouve bien, voilà.
Donc 500 dossiers visiblement sur votre fonction de juge pour enfants, 100 pour votre collègue, 400 pour vous.
C'est réparti comme ça parce que sur ce tribunal, il y a deux cabinets de juge des enfants. J'étais sur tout le secteur d'Aurillac et Élargy. Et l'autre cabinet, c'était Saint-Flour, Murat et Mauriac. J'ai récupéré Mauriac.
La spécificité de la ruralité dans le cas de votre fonction ?
C'est difficile à dire, la ruralité, est-ce que ça implique une souffrance particulière chez les gens en général ? Je ne suis pas sûre, en fait. En termes de moyens, en tout cas, on a quand même une grande chance sur ce territoire que très peu de territoires ont, en fait, c'est qu'on a un service spécialisé sur les auteurs et victimes d'agressions sexuelles, un service d'accompagnement en milieu ouvert, hein, c'est les éducateurs qui interviennent au domicile des gens ou alors quand les enfants sont placés, mais en plus. Et ça, il doit y en avoir 5 en France, donc on est quand même plutôt bien lotis. Après, une autre chance qu'on a, je pense quand même aussi, et je ne pense pas que je pourrais faire le même métier dans d'autres territoires, c'est qu'on a une réponse apportée par le conseil départemental qui est quand même... Alors ça peut toujours être mieux, hein, mais qui est quand même intéressante dans le sens où, quand on ordonne des mesures, quand on rend des décisions de placement ou d'éducative en milieu ouvert, il peut y avoir un petit délai pour que ça se mette en place, mais il n'y a pas un énorme délai. Il n'y a pas une attente infinie, enfin, de 6 mois, 1 an, où ça n'a pas beaucoup de sens finalement de dire il y a une situation de danger telle que je vais placer votre enfant, mais ce sera dans 1 an quand le service aura la capacité de mettre en place cette mesure. Et ça arrive sur énormément de territoires au plan national et notamment dans des grands territoires très urbains. Donc finalement, nous on est sur un petit territoire rural, mais les moyens qui nous sont proposés, ils permettent d'absorber les besoins qu'on a. Après, il va y avoir les mêmes problèmes que sur tous les territoires ruraux, je pense. Et que par contre, il y a d'autres moyens qui ne sont pas non plus pléthores. Donc en pédopsychiatrie, on va avoir du mal à avoir tout le temps une réponse, en suivi psychologique, en orthophonie. On a des enfants, on a beaucoup d'enfants qui ont des carences, alors pour plein de raisons, et qui ont besoin de multiples accompagnements. Et ces accompagnements-là, on ne les trouve pas forcément, ou alors on les trouve loin. Et les dimensions du territoire, l'éparpillement fait que ça prend du temps pour tout le monde, pour les parents qui ne sont pas toujours véhiculés, pour les éducateurs qui doivent se déplacer et on compte pas souvent, on n'y pense pas souvent à ce temps de trajet. Bon, moi j'y pense un peu plus en ayant travaillé 20 ans à la PJJ, mais ça prend énormément de temps et on peut pas faire la même chose quand on est en plein cœur de Paris avec 3 stations de métro sur un périmètre très petit et quand on est dans le Cantal où effectivement il faut couvrir quelque chose de beaucoup plus large, donc ça peut être ces choses-là.
Est-ce que vous sentez encore l'avocat sous la robe du juge chez Philippe Carissou ?
Non. Non, alors la seule chose peut-être qu'on voit effectivement qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là, c'est vraiment une attention très très pointue au bénéfice du doute. Voilà. Effectivement, Philippe Carissou, il va regarder le dossier, et il va se demander d'abord est-ce qu'il y a un doute ? Et s'il y a un bénéfice du doute, il y a un bénéfice du doute. Si on veut aller un peu plus vite par facilité, parfois, des fois, on peut un petit peu regarder la situation globale et se dire c'est plus ou moins crédible. En fait, non, c'est pas juste plus ou moins crédible, c'est est-ce que ça tient ou ça tient pas. Et ça, Philippe Larissou, il l'a vraiment très ancré, ça se ressent. Et c'est très bien.
Votre client, on lui reproche quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et comment vous le sentez surtout ?
Il est poursuivi pour des viols et agressions sexuelles sur ses belles-filles, qui étaient à l'époque mineures. concernant les viols sur l'une de ses belles-filles, il les a toujours reconnus depuis la garde à vue. Il estimait à l'époque qu'âgée de 12 ans, elle pouvait être consentante. Et puis, nous sommes 3 ans après les dénonciations. Il y a aujourd'hui une certaine évolution dans les propos qu'il tient. Il se rend compte, même si c'est compliqué, hein, il est compliqué de parler là-bas, que aujourd'hui, une gamine de 12 ans ne peut pas être consentante et demanderesse de tels rapports sexuels. Donc, il y a eu, en tout cas semble-t-il, une prise de conscience pendant cette détention.
Un Cantalien de 52 ans est accusé d'avoir violé sa belle-fille entre le collège et ses 17 ans. Il avait retrouvé des photos d'elle dénudées et menacé de les révéler. Il comparait jusqu'à ce soir devant la cour criminelle. Le contraste est saisissant. Il y a d'un côté des promesses de sanctions faites par l'accusé, âgé de 52 ans, à la fille de sa compagne depuis le collège jusqu'à ses 17 ans. Le quinquagénaire menace notamment de la priver de téléphone, de sortie ou d'activité. Cela pourrait être pris pour une discussion normale entre un adulte et une adolescente s'il n'y avait les contreparties sexuelles exigées, très souvent envoyées par texto. « J'ai envie, débrouille-toi. Tu seras douce, amoureuse, calme et gentille. Demain, on baise. Toute la journée, toute la nuit, jusqu'à ce qu'elle révèle tout à un confident qui l'aide à aller au commissariat. » Tout commence au collège. À 12 ans, elle envoie des photos d'elle dénudée à un petit copain. Mais les images, dit-elle, ont été interceptées par son beau-père, le compagnon de sa mère depuis 8 ans. Elle le connaît depuis toute petite. C'est là qu'elle situe le début de son calvaire. Il ne dit rien à personne, le chantage s'installe. Il garde le secret, d'abord contre des câlins. La première relation sexuelle survient quelques mois plus tard. C'est sa première fois, assure-t-elle. Lui reconnaît qu'elle est encore collégienne et que les viols deviennent réguliers. Désemparée, la jeune fille s'exécute. Quand elle montre trop peu d'enthousiasme, il envoie un cliché menaçant. Tous les textos sont dans le dossier, accablant. La sœur de la plaignante, 3 ans plus âgée, dénonce une tentative de rapprochement identique à coups de chantage ambigu par SMS, de chatouilles qui s'achèvent sur son soutien-gorge. Cette fois, il nie avec véhémence. À la barre de la cour criminelle du Cantal, il s'enfonce dans un raisonnement laborieux. Incarcéré depuis les révélations en 2021, il est incapable de se rappeler le début de la relation sordide qu'il instaure. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu ce soir.
C'est vrai que mon client se livre peu. On voit qu'il y a un sentiment de honte. D'ailleurs, délibérément, je l'ai un peu secoué. On est là aussi pour ça. On peut se permettre, en tant qu'avocat d'un accusé, de lui dire certaines choses que la cour ou l'avocat de la partie civile ne se permettrait pas. On est là pour qu'il parle, qu'il se livre. Et il a parlé, mais il parlait mal. Il se livrait, mais il se livrait mal. Donc c'est pour ça que j'ai haussé un petit peu le ton, pour qu'il se livre plus devant la cour. On avait besoin de sincérité. Moi, je me posais la question, quelle a été son évolution en détention, ses 3 ans de détention? Est-ce qu'il a pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés? J'estimais que ses propos, ses réponses n'étaient pas suffisantes, donc c'est pour ça que je l'ai un petit peu secoué.
Donc là, il est en détention, à côté, oui, à la maison d'arrêt, depuis 3 ans.
Ouais.
Vous êtes allé le voir régulièrement?
Oui, je l'ai vu, on a discuté, je suis en relation avec sa sœur. Également, c'est vrai qu'on attend, j'attends beaucoup des experts psychologues, psychiatres, parce que cet individu, tout le monde le dit, ses proches, ses collègues, ses amis, on n'aurait jamais cru ça de lui. On n'a jamais détecté de troubles pédophiles chez lui. On l'a jamais vu s'intéresser à des jeunes filles. Et on a l'impression que ce qui s'est passé, c'est circonstanciel. C'est vrai que j'ai besoin de réponses pour l'avenir, pour savoir s'il est dangereux, s'il est capable de recommencer. J'ai besoin de réponses de la part des experts.
Oui, parce que votre client dit à la barre, je respecte ma compagne, je ne l'oblige à rien. Et puis il envoie des SMS en même temps à une de ses filles. On baise, enfin des choses très graveleuses.
C'est d'ailleurs pas du tout ces échanges de SMS... c'est pas du tout des échanges entre un beau-père et sa fille. On a l'impression que ce sont des échanges de SMS d'ados. Est-ce qu'il avait une autorité? Moi, quand je lis ses SMS, je me dis pas c'est un beau-père qui a autorité, qui envoie des SMS à sa fille. Je me dis c'est deux ados qui parlent complètement librement.
Il est jaloux d'un copain de sa belle-fille qui a 12 ans. Est-ce que ça montre une immaturité ou c'est un calcul aujourd'hui?
Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment amoureux? Moi, je pense sincèrement qu'il y avait un sentiment amoureux qui était éprouvé par l'accusé sur sa belle-fille. Qui est difficile à reconnaître, hein, qui est difficile. Il l'a esquissé. J'avais peut-être eu des sentiments amoureux. Moi, je pense qu'il était sincèrement amoureux d'elle, et donc jaloux.
Ça se plaide, ça, Maître Portejoie?
Ça se plaidera pas en ces sens-là.
Juste un dernier mot. Ouais. On est en cour criminelle. Ouais. Ces affaires de viol auraient pu être aux assises.
Ouais.
Vous pensez quoi de la différence des deux configurations?
J'avais un a priori sur les cours criminels et quand je vois quand c'est bien dirigé comme c'est dirigé aujourd'hui, je trouve qu'on perd pas notre temps. C'est vrai que des fois les cours d'assises on perd aussi notre temps. Là on va à l'essentiel. Donc moi je trouve que cette journée par exemple c'est une journée qui est vraiment constructive dans le cadre de la manifestation de la vérité.
Dernière question, Maître Portejoie. Est-ce que vous pensez qu'à cette heure-ci, votre frère ou votre père plaide dans une autre juridiction?
Ah oui, j'en suis même sûr. Mon frère plaide à Fort-de-France actuellement. Et mon père doit préparer son dossier puisqu'il plaide demain à Grasse.
Alors là, on est dans une salle où d'habitude personne ne rentre.
Effectivement, c'est la salle des délibérés de la cour d'assises et de la cour criminelle. Et effectivement, elle est normalement inaccessible au public. Diana Macaire, je suis conseillère à la cour d'appel de Rion et je préside les cours d'assises et les cours criminelles des quatre départements de l'ancienne Auvergne, donc qui sont le ressort de la cour d'appel de Rion. Et donc aujourd'hui, je suis là en qualité de présidente de la cour criminelle du Cantal qui se tient à Aurillac.
Quelle est la différence pour le grand public entre une cour d'assises et une cour criminelle dans son fonctionnement?
La différence tient essentiellement, enfin exclusivement, j'allais dire, à la présence des jurés en cour d'assises. Alors qu'en cour criminelle, vous n'avez pas de jurés. Nous sommes 5 magistrats professionnels. Ça change beaucoup de choses puisque la décision prise avec des jurés, elle prend beaucoup plus de temps. Il faut faire preuve de davantage de pédagogie. Il faut les accompagner durant ces 2 ou 3 jours de procès. La plupart du temps, c'est 2-3 jours. Ils découvrent la justice, ils découvrent des affaires parfois un peu difficiles en cour criminel. On est entre professionnels, tout le monde comprend ce qui se passe et puis on est vraiment d'égal à égal. Hein. Évidemment, on juge plus d'affaires dans le même temps. Hein. Je pense aussi qu'économiquement, c'est moins lourd financièrement pour l'État. Hein. Il ne faut pas se leurrer parce que le coût d'une cour d'assises avec des jurés à indemniser, c'est sur un temps plus long, évidemment que c'est plus lourd qu'une cour criminelle avec 5 professionnels. Après, il y a du positif réellement dans le sens où je pense qu'on va directement à l'essentiel. Il n'y a pas le côté théâtral de la cour d'assises. Donc peut-être que les avocats, nous-mêmes professionnels, on a moins besoin de rentrer dans des détails. On va directement à l'essentiel, donc c'est plus efficace. On juge en cour criminelle des affaires dont la peine encourue est de maximum 20 ans. Et encore, il ne faut pas que ce soit des mineurs au moment des faits, ou des récidivistes. Donc c'est juste une question de peine encourue, et on fait ce tri-là. Et après, on appelle des décisions de cour criminelle. De toutes les façons, c'est la cour d'assises d'appel. Donc il n'y a pas de cour criminelle d'appel, si vous voulez. Il y a un moment où les affaires qui vont en cour criminelle, de toutes les façons, peuvent être susceptibles d'être examinées avec des jurés.
Depuis combien de temps présidez-vous et cours criminelles et cours d'assises?
Ça fait 4 ans. Évidemment, la cour criminelle, ça fait moins longtemps puisque c'est entré en vigueur le 1er janvier 2023 pour ce qui est de notre cours.
Alors, est-ce qu'il y a un style que vous avez développé dans la tenue des débats?
Alors, effectivement, chaque président met sa patte nécessairement. J'ai pas réfléchi à un style. En revanche, j'ai réfléchi à un ordre de passage des témoins, des experts. Et j'ai évolué dans ce domaine-là. Et voilà, j'aime bien présenter au début de l'audience, au travers de l'enquête de personnalité qui a eu lieu, l'avis de l'accusé en une demi-heure, trois quarts d'heure avec cet enquêteur de personnalité. Ensuite, j'aime bien aborder les faits parce que je trouve qu'il faut rentrer dans le vif du sujet. Et puis, je finis toujours par les expertises de personnalité, notamment l'expert psychiatre, parce que je trouve qu'il peut nous donner un éclairage sur sur la façon dont l'accusé a réagi au cours des débats. Et puis, on pose des questions peut-être plus éclairées par les débats que nous avons eus aux experts de personnalité en fin d'audience. Donc, j'ai évolué sur cette pratique. Et je sais que la pratique n'est pas la même chez tous les présidents d'assises de France. Voilà, c'est peut-être la seule façon. Après, la façon d'interroger, je crois que vraiment, on y met de sa personne. Donc, chacun est différent.
Et est-ce que vous vous rappelez la première audience que vous avez présidée ?
Ah oui, je me souviens parfaitement de la première audience qu'on préside. Je me souviens des erreurs que j'ai faites dans le tirage au sort des jurés. J'avais confondu les jurés pas récusés et les jurés récusés. Enfin, c'est vrai que c'est très impressionnant, oui, oui. Et puis, de ne pas faire d'erreurs, les enjeux sont importants. Voilà, et puis, plus ça, même, je dirais, les premières audiences que j'ai présidées. Ce n'est pas que la première audience. Mais on s'aguerrit hein, au fur et à mesure. Et encore maintenant, j'ai toujours un petit peu d'anxiété, on va dire, avant de commencer une audience. On ne sait jamais comment ça se déroule, une audience d'assises. Il peut y avoir des incidents, il peut y avoir des problèmes. Tout doit se régler aussi sur le champ. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, quand même, pour le président. Mais c'est ce qui est riche, c'est ce qui est intéressant, et c'est vraiment l'humanité dans toute son intensité. Ce qui m'intéresse réellement dans cette matière criminelle et dans le temps que l'on consacre au jugement de ces affaires-là, c'est que on essaie de comprendre comment on en arrive au passage à l'acte. Et on part de la naissance de l'individu jusqu'à la commission du crime et même après, hein, puisque généralement il est soit incarcéré, soit sous contrôle judiciaire depuis quelques années au moment où on le juge. Et je trouve que comprendre ce passage à l'acte-là, eh bien, ça permet de mieux juger. Et puis c'est très intéressant d'un point de vue humain. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Dans ma formation à l'école de la magistrature, on nous disait qu'il y avait trois explications au crime, quel qu'il soit, à la fois, alors, c'était le pouvoir, l'argent ou l'amour. Alors, l'amour avec son pendant qui est la haine. Et c'est vrai que j'ai pu vérifier que dans les dossiers que j'ai jugés, qu'il y avait toujours au moins un des trois, voire deux des trois, voire trois des trois paramètres. Après, l'enjeu émotionnel, il est conséquent. Je dirais qu'il est plus conséquent quand je prépare le dossier, que je suis seule chez moi, que je suis confrontée au dossier en tant que telle. Une fois que j'arrive à l'audience, cet aspect-là, je l'ai digéré, on peut dire comme ça.
Le programme de cette matinée ?
Alors là, nous sommes à la deuxième journée de l'examen d'une affaire de viol en cour criminelle. Et donc, nous allons entendre les experts de personnalité. Et ensuite, nous passons aux plaidoiries. Puis, nous irons délibérer et nous rendrons notre verdict dans la soirée.
Partejoie, la sœur et le père de l'accusé sont venus. Quel effet ça a eu sur votre client ?
Il était ému. Il était ému de les voir. Il a fondu un petit peu l'armure. C'est vrai que c'est compliqué pour lui de livrer ses émotions à la barre. Là, je l'ai trouvé sincère dans ses réponses. Et il regardait même sa sœur, qui ne pouvait plus voir physiquement depuis qu'il est en détention. On l'a senti véritablement ému et sincère dans ses réponses.
Est-ce que je me trompe ou vous êtes un petit peu irrité ou accablé par ces prises de parole ?
Il y a une évolution de son comportement en détention, c'est une évidence. Mais je trouve qu'il n'arrive pas suffisamment à dire ce qu'il exprime. Il est toujours un petit peu dans les mêmes réponses. Il s'excuse, mais s'excuser c'est bien, mais c'est pas suffisant. On a besoin aussi, et la Cour a besoin d'explications. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et là, on se retrouve face à un blocage.
Vous disiez à votre confrère des parties civiles que vous pourrez prendre le thé à 17h ?
Peut-être pas le thé. Ce sera beaucoup plus rapide, en tout cas le délibéré, que lors d'une cour d'assises classique où il faut expliquer aux jurés un petit peu les peines, où il y a souvent des débats. Il faut expliquer tout ça aux jurés. Là, on a affaire à des magistrats professionnels, donc je pense que le délibéré devrait être beaucoup plus rapide. Et une heure et demie de délibéré maximum, à mon avis, ce sera le cas.
Maître Julliard, votre confrère en défense évoquait déjà la possibilité du verdict. Vous voyez comment, vous, cette audience de deuxième jour de cour criminelle ?
je la vois comme mon confrère, hein, je pense, sans surprise, à partir du moment où on est sur des faits qui sont reconnus. Après, ce sera le quantum de la peine qui va avoir son importance.
Mais là, c'est un viol intrafamilial d'un ascendant sur des mineurs. Est-ce que ça tape fort ici, dans le Cantal ou même dans d'autres juridictions ?
Ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même un certain machiavélisme pour obtenir les faveurs sexuelles de ces belles filles avec du chantage. Et ça, visiblement, c'est très mal passé hier devant la cour criminelle. Je trouve qu'on a eu des parties civiles qui étaient extrêmement dignes à l'audience, qui étaient dans la mesure, qui n'étaient pas dans l'outrance. Et à côté de ça, je trouvais qu'il faisait pâle figure à la barre par rapport aux parties civiles. C'est pour ça que j'ai un petit peu haussé la voix.
Maître Julien, on vous a vu déjà en assise la semaine dernière. Vous retrouvez en cour criminelle. Vous avez eu assez de temps ce week-end, parce que vous prenez le relais d'un de vos confrères qui a lâché l'affaire, on peut dire, vendredi soir. Ça a été ce week-end, comment vous avez travaillé le dossier ?
J'ai beaucoup travaillé ce week-end. J'ai découvert le dossier, donc je l'ai travaillé comme un autre dossier. Hein. Peut-être avec un peu moins de recul qu'à l'habitude, mais bon, voilà, tout se fait. On a quand même l'habitude de travailler ces dossiers-là de manière assez rapide. Après, c'est pas un dossier qui est extrêmement compliqué. C'est surtout qu'il y avait pas mal de SMS et de choses à décortiquer. Mais après, juridiquement, il n'est pas très complexe comme dossier.
On est assis derrière vous et sur votre dossier, je voyais beaucoup de stabilo, beaucoup de petites notes. C'est comme ça que vous travaillez ? Mettre en relief des choses importantes ?
Voilà, c'est tout à fait ça. Bah, c'est la méthode à l'ancienne. Hein. On écrit peu et on stabilote et on essaye d'aller à l'essentiel.
Je vous remercie, Madame l'avocat général. Bien volontiers. Très bien. L'audience est suspendue pendant 5 minutes.
Ainsi se clôt Pierre Chambon. Deux semaines, vous avez été présent à deux audiences de cour d'assises, une audience de cour criminelle.
Ouais, ça fait un tunnel. On en a deux par an, des sessions comme ça dans le Cantal. Et c'est un tunnel, ouais. Je sais que ça dure pas longtemps, mais ça fait des journées intenses, ouais. C'est intéressant. Pour moi, là, les journées commencent au début de l'audience à 9h et elles se terminent un peu plus tard, du coup, avec l'écriture des articles. Je suis pas à la maison avant minuit, 1h du matin.
Alors, justement, la maison, c'est où ?
J'habite à une quarantaine de minutes d'Aurillac, dans un petit village, au milieu du volcan, vraiment dans la montagne. Je suis content, en période d'assises, d'avoir ces 40 minutes de route. Je mets la musique et on passe à autre chose, puis une fois qu'on a passé le pas de la porte à la maison, c'est bon, on est dans un autre quotidien, ouais. Ouais, ouais. La montagne, Cantal, le beau-père incestueux condamné à 14 ans de réclusion. La fin d'une relation sordide. Pendant 2 jours, la cour criminelle aura compulsé un dossier rempli d'échanges de textos entre cet homme, compagnon de la mère de la victime depuis 8 ans lorsque les faits débutent, et sa belle-fille. Il y exige des relations sexuelles, la menaçant de révéler des photos d'elle dénudée qu'il a interceptées alors qu'elle a 12 ans. La relation de domination a continué ainsi, jusqu'à ce qu'elle révèle des faits à un confident qui l'aide à dénoncer le chantage sordide. Elle y apparaît comme un objet sexuel, on baise tout de suite. Si elle ne répond pas assez vite à son goût, il la menace de révéler des photos ou de la punir. L'homme est pourtant travailleur, lisse, décrit comme normal au lit par ses ex, parfaitement inconnu des gendarmes. Il l'a reconnu, je n'aurais jamais parlé à ma compagne de cette manière. L'adolescente avait cédé, décrite comme désarmée par des experts face aux demandes de son beau-père. Elle avait intégré ses relations sexuelles au domicile, dans le dos de sa mère, dans son quotidien, jusqu'à ses 17 ans. La grande sœur de la victime dénonce une tentative similaire. Elle ne cède pas, mais se souvient d'une agression sexuelle qu'il nie. Alors qu'il lui fait des chatouilles, ses mains terminent sous le t-shirt de l'adolescente, sur son soutien-gorge. La cour criminelle l'a également condamnée à ce sujet. L'avocate générale Adeline Ganac avait requis 16 ans de réclusion criminelle avec une inquiétude latente concernant le fonctionnement de cet homme qui a peiné à convaincre de la réelle compréhension de ses déviances. Il reconnaît l'existence des relations sexuelles mais évoque régulièrement le « nous », comme s'ils étaient en couple. Elle était demandeuse. Pour Maître Canis, avocat des victimes, il n'a pas avoué un homme qui avance, qui s'humilie devant une juridiction, qui se regarde tel qu'il est dans le miroir, c'est un homme qui est en train de changer. Ce n'est pas son cas. Maître Jean-Hubert Portejoie, en défense, a reconnu les difficultés de son client, avec moins d'inquiétude pour l'avenir. Il décrit un contexte particulier, un début de dépression au moment des faits. On est sur un passage à l'acte circonstanciel, pas sur une relation pédophile, estime-t-il. À sa sortie, le quinquagénaire aura interdiction de contacter les victimes et d'avoir une quelconque activité au contact d'un mineur.
Maître Canis, vous venez d'échanger avec la famille des victimes. Quel est leur sentiment ?
Que la justice a été rendue, qu'il a été condamné à une peine de réclusion criminelle relativement longue, à la hauteur de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Et donc, elles sont contentes de la manière dont les débats se sont déroulés et de l'issue de ce procès.
Est-ce que j'ai fait rappel ? Je ne sais pas.
Maître Portejoie.
Traditionnellement, Aurillac, c'est de notoriété, hein, d'ailleurs, publique, que les peines à Aurillac sont sévères, sont extrêmement sévères. Là, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que la cour est allée quand même en deçà des réquisitions, donc on a quand même été entendu. Ça me semble, somme toute, quand même assez élevé comme peine. Faut que je réfléchisse avec mon client, faut qu'on voit, pas de décision hâtive, est-ce qu'on fait appel ou pas. Je sens que ça a été une épreuve aussi pour lui, ces deux jours. Là, il vient de me dire qu'il ne se sentait pas capable de revivre ça. Bon, c'est une décision à chaud, faut qu'on voit ça.
14 ans, c'est la peine, mais il a déjà fait 3 ans.
Un peu plus de 3 ans.
Donc ça va baisser, plus les remises de peine. Si on fait un rapide calcul, il sort au bout de 9 ans.
Même un petit peu moins. Mais je pense sincèrement que peut-être mieux préparé, puis si un appel, ça ne sera pas audiencé avant un an et demi, il aura eu le temps aussi d'évoluer en détention à nouveau. S'il se présente dans de meilleures conditions, je pense qu'on peut obtenir un petit peu moins.
Là, vous reprenez la route ?
Bien sûr.
Vers Clermont-Ferrand ?
Oui, et on replaide demain à 8h30 à Clermont-Ferrand.
C'est quoi le dossier ?
C'est un dossier dans le pôle social, c'est plus léger demain.
Laurence Mollaret, on vous a vu en audience comme assesseur la semaine dernière. On vous retrouve en cour criminelle. Est-ce que c'est le mystère du passage à l'acte qui fait que vous, après tant d'années comme juge, vous êtes encore là comme assesseur ?
Alors la question du passage à l'acte est effectivement troublante et très intéressante. Certainement, ça continue à m'intéresser et à me motiver pour continuer à siéger et essayer de mieux comprendre pourquoi une personnalité dérape, quel que soit le type de fait qui est commis. Mais c'est vrai que c'est une question qui interroge profondément l'humain, en fait, ce que nous sommes.
Inceste à la cour criminelle. Avec la présidente Diane Amaker, la juge honoraire Laurence Mollaret, les juges pour enfants Philippe Clarissou et Stéphanie Val, Gilles Lemanac, président du tribunal de commerce, la juge des contentieux de la protection Kitry Lasserre, les avocats Corinne Sermadiras, Jean-François Canis, Stéphane Juliard, Jean-Hubert Portejoie et Pierre Méral, et aussi le greffier Luigi Amelaïs et Pierre Chambaud, chroniqueur judiciaire au journal La Montagne. Remerciements, Philippe Juliard, président du tribunal, le procureur Paolo Giambasi et Séverine Tavenec, attachée de presse au ministère de la Justice. La série documentaire, coordination Emmanuel Laurentin, chargée de programme Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales, mixage Éric Villenfin, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarède.